Madame la secrétaire exécutive, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi comparez-vous la corruption à un cancer ?
Parce que c'est un fléau qui infecte un peu tous les systèmes économiques, sociaux, politiques de notre continent. Et nous pensons qu'aujourd'hui, sur le continent, on a un fléau, on a un tumeur qui a quand même pris assez d'ampleur. Car j'ai donné l'exemple de le coût des barrières transfrontalières qui coûtent à peu près 23 $ en Afrique de l'Ouest, par exemple. Une femme qui a pour capital 100 $ et qui doit payer 23 $ tous les jours pour traverser les frontières pour faire son commerce, elle va, après 4 jours, mourir parce qu'elle ne pourrait pas le faire. Donc, la même chose pour nos femmes qui vont à l'hôpital, qui n'ont pas peut-être les médicaments qu'il faut, mais à laquelle on demande quelque chose avant de le servir. Et nous savons que si nos mères ne sont pas là, on n'a pas un continent. Donc nous savons à l'école qu'un professeur qui ne se présente pas à l'école, c'est des enfants qui ne sont pas bien éduqués. Nous savons qu'un contrat qui n'est pas bien négocié, c'est un pont qui n'est pas construit. Donc aujourd'hui, la CEA démontre que le coût de la corruption sur le continent, c'est à peu près 25% de notre produit intérieur brut.
Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas la corruption, l'Afrique serait 25% plus riche.
Le produit intérieur brut de l'Afrique serait 25% plus élevé, exactement.
Alors, vous avez donné l'exemple de l'Afrique de l'Ouest où vous avez parlé de ces barrières aux frontières, mais pas seulement aux frontières.
Donc, notre étude a essentiellement focalisé sur des barrières transfrontalières, mais c'est vrai aussi qu'à l'intérieur de tous ces pays, nous trouvons les mêmes choses. Donc, c'est de 3 $, effectivement, à 23 $ tous les 100 km. C'est quand même un chiffre qui est ahurissant et qui est cancéreux.
C'est-à-dire que si je fais 100 km en Afrique de l'Ouest, je dois payer entre 3 $ et 23 $.
De facilitation à des gens qui vous demandent de vous arrêter, de contribuer à quelque chose qui n'est pas légal. C'est ça la corruption. Cette corruption n'est pas seulement une corruption intra-africaine. Nous avons des grandes sociétés, le secteur privé. On a fait une étude, encore une fois de plus à la CEA, qui montre qu'au moins presque 52% pensent et ont subi une sorte de corruption à travers les sociétés privées internationales et locaux. Donc vraiment, je veux dire, c'est une fléau, c'est un cancer sur le continent, mais les acteurs de cette corruption ne sont pas nécessairement uniquement continentales. Nous savons, évidemment, dans nos relations avec les pays étrangers, nous avons les locas Siemens que nous connaissons très bien, mais il y en a plusieurs d'autres cas de corruption extra-continentale, mais qui se passe sur le continent.
Vous voulez parler du cas de la société allemande Siemens ?
Justement, c'était un cas de corruption où il fallait faire passer des pots de vin pour avoir des contrats. Et donc, nous voulons nous assurer que dans ce partenariat public-privé, il y a une transparence, il y a un appel d'offres, il y a une compétition qui se passe pour nous assurer que finalement, les sociétés privées internationales ou africaines soient des sociétés qui méritent effectivement ces contrats, ces marchés, et que le coût de production, parce que c'est là encore une fois la corruption, c'est donner un marché à quelqu'un qui ne la mérite pas, et à la fin, le coût du service qui est donné est très élevé. Ça, c'est la corruption qui tue à petit feu, car s'il faut payer l'électricité 10 fois plus cher que son voisin, la compétitivité de votre pays est tout à fait réduite, et donc ça coûte à l'économie.
Et comment faire pour que les multinationales américaines, européennes, chinoises, payent réellement leurs taxes et leurs redevances aux pays africains ?
Premièrement, nous devons d'abord avoir accès aux contrats qui sont signés. Deuxièmement, nous devons avoir une transparence sur l'imposition de la fiscalité, une discussion autour de quelle fiscalité, comment et pourquoi. Il y a beaucoup la question de l'autonomisation de la fiscalité dans beaucoup de nos pays. Encore aujourd'hui, c'est une fiscalité qui est faite de main à main avec des dossiers qui doivent échanger. Nous savons aujourd'hui, et la CEA travaille beaucoup sur ça, à mettre en place des logiciels informatiques qui permettent de faire toute sa fiscalité sans avoir besoin des contacts entre humains, qui nous savons si on réduit ces contacts, et il y en a beaucoup de pays qui ont fait, le Rwanda, le Ghana est en train de mettre en place un système comme ça, tout de suite la fiscalité et le taux de revenus imposés augmentent dans ces pays.
Et puis il y a ces révélations des Paradise Papers qui montrent qu'il y a beaucoup de pays dont les personnes les plus riches placent leur argent dans des pays étrangers où on ne paye pas d'impôts, non seulement en Amérique mais peut-être aussi sur l'espace Union africaine comme à l'île Maurice. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Effectivement, je pense que ce que nous sommes en train de faire, avec le G20, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait sur les paradis fiscaux et je pense que l'Afrique et tous les États africains s'associent à ces réformes de transparence, d'ouverture. Donc j'ai parlé dans mon discours, il faudrait que les pays africains signent les conventions internationales qui régissent un peu ces transferts de capitaux.
Madame la secrétaire exécutive, merci.